Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Eiffel Radio. Vous écoutez Sport 360, l'émission qui fait le tour de toute l'actu sportive, résultats, analyses et passions du sport sous tous ses angles. Alors au sommaire de cette émission, comme chaque semaine, on va commencer par partir du côté des États-Unis. Bien sûr, parler des dernières nouvelles de la NBA. Je vous parlerai ensuite des dernières actualités du tennis, du foot, puis vous présenter toute l'actualité dont on n'aura pas parlé dans ce début d'émission. Juste après, nous partirons à la découverte d'un sport encore méconnu du grand public, avant de finir avec l'agenda sportif du week-end prochain. Et l'actualité du basket s'embrase en ce milieu de mois de mai, avec des playoffs qui livrent déjà leur premier verdict définitif et des batailles tactiques d'une intensité assez rare. Outre-Atlantique, la NBA a basculé dans une phase de domination brutale pour certains favoris. Les New York Knicks qui ont frappé un grand coup en balayant Philadelphia, 4 victoires à 0, portées par une défense de fer de Madison Square Garden qui est en ébullition. Mais le véritable séisme vient de l'Ouest, où le Oklahoma City Thunder s'est infligé le même sort, un sweep mémorable aux Los Angeles Lakers. Malgré la résistance héroïque de LeBron James, la jeunesse et la vitesse du Thunder sont une raison des Los Angeles lors d'un match numéro 4 décisif, remporté 115 à 110 cette nuit, en fait, tout simplement. Les deux autres demi-finales de conférence sont en revanche de véritables guerres d'usure. Les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama qui sont dos à dos avec les Minnesota Timberwolves, deux victoires partout avec le succès crucial des Wolves lors du quatrième duel. La tension est à son comble avant le match 5 qui sont prévus donc, dans la nuit du 12 au 13, donc au moment de la sortie de l'émission. Vous aurez sûrement les résultats. Une rencontre qui pourrait bien faire basculer le destin de la série. À l'Est, le scénario est identique entre les Detroit Pistons et Cleveland, qui se neutralisent également à deux partout, promettant un suspense insoutenable pour les fans de Michigan et de l'Ohio. Sur le vieux continent, les yeux sont rivés vers Athènes, qui s'apprête à accueillir le final phare de l'Euroleague du 22 au 24 mai. Le plateau s'annonce royal, puisque trois des quatre mastodontes sont déjà connus. Le Real Madrid, champion en titre, a validé son billet sans trembler, tout comme l'Olympiakos et le Fenerbahçe Beko, qui ont su dompter leurs adversaires respectifs en quart de finale. L'incertitude plane encore sur le dernier strapontin pour la Grèce. La série entre Valence et le Panathinaikos nous offre un scénario assez spectaculaire. Alors que les Grecs menaient 2-0, les Espagnols ont entamé une remontada spectaculaire pour arracher un cinquième match décisif. Le vainqueur de ce duel qui aura l'honneur de défier la Maison Blanche en demi-finale dans une ambiance qui s'annonce électrique au Telecom Center. En France, la Betclic Elite qui vit ses dernières heures de saison régulière avant le grand saut des playoffs. La 30e et ultime journée programmée pour le 16 mai sera déterminante pour le positionnement final. L'AS Monaco, bien que déjà assuré de terminer en tête, vient de subir un sérieux avertissement en s'inclinant lourdement face au Paris Basket 123 à 95. Les Parisiens qui ont été emmenés par une adresse extérieure insolente, qui ont envoyé un message très fort à toute la Ligue. Ils sont prêts pour le titre. Derrière, la lutte pour l'avantage du terrain fait rage entre Nanterre, Paris et l'ASVEL. Les Villeurbanais transfigurés restent sur une série assez impressionnante de 6 victoires consécutives et semblent monter en puissance au meilleur moment. Tout jouera donc lors des dernières affiches, notamment pour le choc entre Paris et l'ASVEL, qui pourrait redessiner le haut du tableau juste avant les quarts de finale qui débuteront dans la foulée. Entre la quête du nouveau sacre pour Monaco et l'appétit des outsiders, le basket français s'apprête à vivre un mois de mai et de juin historique.
You want it, never want it in my life. tripping like angel dust. Everywhere she goes, you always see me. I'm flogging, I'm flogging. You stuck with me like I'm stuck in your teeth. No flaw. My song a ring ring. I pull up in a GT. Rabbit fur, CZ. All because she pretty. Her friends talking down on me. She petty. She don't listen. She double down off the Hennessy. She slutty me. She slutty me. Slap the devil and told him that my girl harder. Even way too tone on her. With the way you wind yo, yo. Who taught ya? Who taught ya? Got my hands all on ya body. Please don't break my heart. Black like Wakanda, let me remind ya. Rockin' designer, racks in my binder. She my type of liner, you would never find her. I wouldn't do the same if I had cash and I had time for her. Who's that? We gotta be secondhand lovers. You know we stay together, we need each other. We need each other. It's a Lamborghini, baby, are you with me? She do Bobby Whitney, that booty always tempting. Why are you here sipping? I sing a whole symphony. I took her to the Gucci store and walked out with some Tiffany. Now we ain't singing all these love songs. All these love songs. Girl, you give me love charms. Singing in your undertone, yeah. You know I've been in here on a mission. I need you.
Et on va commencer cette deuxième séquence en parlant du foot, qui est vraiment absolument brûlant ces derniers temps. On est donc à l'heure où on enregistre cette émission, le 12 mai. Et si vous aimez le suspense, vous allez être servi. On entre dans cette période de la saison un peu zone rouge, là où les organismes craquent, mais où les légendes s'écrivent. On va parler d'abord de la Ligue 1 à quelques journées de la fin. Le classement, c'est une véritable poudrière. On ne regarde plus seulement qui va soulever l'hexagone. On regarde qui va réussir à sauver sa peau ou à décrocher aussi ce précieux ticket pour la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Ce qui frappe cette année, c'est l'incroyable densité du milieu de tableau. Des clubs qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau, comme Brest, Nice, qui ont tenu la dragée haute au cador budgétaire. La question que tout le monde se pose sur les plateaux des différentes plateformes de sport ou dans les colonnes de l'équipe, c'est la fatigue va-t-elle avoir raison du beau jeu ? On a vu des matchs ce week-end où l'intensité a un petit peu quand même chuté en deuxième mi-temps. Pas sur tous les matchs, bien évidemment. Signe un peu que les effectifs sont à bout de souffle. Mais c'est là que le coaching va intervenir. On voit des entraîneurs qui tentent des coups tactiques désespérés, des passages en 3-5-2 improvisés. Et c'est ça qui nous fait vibrer dans le foot, mais levons aussi les yeux vers l'Europe, les demi-finales des Coupes d'Europe qui viennent de rendre leur verdict. Et quel spectacle, le football européen n'a jamais été aussi rapide. On est loin du football des années 2000. Aujourd'hui, c'est du heavy metal football du début à la fin. Les transitions qui sont foudroyantes, on attend désormais les finales avec une impatience folle. Est-ce que le Real Madrid va encore une fois prouver que cette compétition est sa propriété privée ? Ou est-ce qu'un nouveau riche de Premier League va imposer sa loi ? Ce qui est sûr, c'est que la suprématie européenne est plus disputée que jamais et la présence de clubs français dans les derniers carrés ces dernières saisons montre que la formation à la française et notre championnat gagnent enfin en crédibilité. Et puis, comment ne pas parler du mercato ? On est à quelques semaines de l'ouverture officielle. Mais en coulisses, c'est déjà la guerre. Les agents les plus puissants du monde s'activent. Le dossier qui brûle toutes les lèvres, c'est évidemment celui des grandes stars en fin de cycle. On parle de mouvements records vers l'Angleterre ou même de retours romantiques dans les clubs formateurs. L'enjeu est financier aussi, bien sûr, mais il est surtout sportif. Personne ne veut entamer la saison prochaine avec un effectif bancal, surtout avec ce qui nous attend cet été, puisque le gros morceau, l'ombre gigantesque qui plane sur ce mois de mai, de juin, ça va être la Coupe du Monde 2026, dans un mois pile à peu près. Le monde qui aura les yeux tournés vers les États-Unis, le Canada et le Mexique. Pour la première fois de l'histoire, 48 nations vont s'affronter. C'est un défi logistique et physique monumental. On entend déjà les débats sur la santé des joueurs, Jouer une Coupe du Monde après une saison de 60 matchs, est-ce raisonnable? Mais pour nous, supporters, c'est l'excitation totale. On scrute la moindre grimace de nos cadres en championnat. La liste de Didier Deschamps, qui est l'objet de toutes les spéculations. Est-ce qu'il va privilégier l'expérience des vieux briscards ou injecter encore plus de cette jeunesse dorée qui pousse un peu partout à la porte? Les Bleus qui ont une revanche à prendre après les émotions fortes des dernières compétitions et de la dernière Coupe du Monde. On sent que ce groupe a faim, qu'il veut cette troisième étoile pour marquer l'histoire aussi. Donc voilà, le football en ce moment, c'est un mélange de stress, de calcul tactique et de rêve de gloire internationale. Et on va quitter les pelouses pour la terre battue. On va changer d'ambiance, mais pas d'intensité, puisque on est maintenant dans la quinzaine romaine, le Master 1000 de Rome. C'est vraiment le temple du tennis sur ocre, avant le grand pèlerinage de la Porte d'Auteuil, le Foro Italico, ces statues de marbre, ce public volcanique. C'est ici que les masques tombent. En ce moment, le circuit ATP qui vit une révolution que nous n'avions pas connue depuis 20 ans. On est officiellement dans l'ère de la passation de pouvoir. Les duels qui électrisent la planète de tennis, c'est bien évidemment Yannick Sinner contre Alcaraz. À voir Alcaraz s'il revient ou pas. Il s'est entraîné à Rome et avec de gros straps au niveau du poignet et tout, qui laisse les doutes planer. À Rome, Sinner, il est quand même chez lui. C'est l'idole absolue, le Carota Boy qui est devenu roi. Sa capacité à frapper la balle aussi fort des deux côtés sans jamais donner l'impression de forcer, elle est terrifiante. Il a fait deux premiers matchs monumentaux en infligeant parfois le score de 6-0 à ses adversaires. En face, on avait Alcaraz qui est aussi cet artiste du toucher, celui qui est capable de sortir une amortie millimétrée après un sprint de 20 mètres. On assiste vraiment à la naissance de cette rivalité qui va définir, je pense, les prochaines décennies du tennis. C'est un tennis beaucoup plus athlétique, agressif, où le service volé revient, même pointer le bout de son nez par moment. Et puis, au milieu de ce choc de titans, il y a la question qui fâche. Où en est Novak Djokovic? Le recordman de titres en Grand Chelem semble plus humain cette année. On l'a vu plus friable, plus agacé aussi. Est-ce que c'est la fin d'un cycle ou simplement une gestion de vieux renard qui ne veut s'allumer qu'une fois arrivé à Roland-Garros? Il a déjà été sorti à Rome, mais on sait que le Serbe nourrit de l'adversité. Plus on dit qu'il est fini, plus il devient dangereux. Mais à Rome, bon, c'est une surface bien sûr qui ne pardonne aucun retard à l'allumage. Il va devoir rallumer cette flamme et envoyer un message fort à la Porte d'Auteuil, à la concurrence, puisqu'il n'a pas gagné du coup ici à Rome. Et il va arriver à Paris sans ce costume d'invincible qui terrorise ses adversaires dans les vestiaires. Pour nous Français, l'excitation elle est aussi réelle après des années de vaches maigres. On sent un petit frémissement de nos jeunes comme Arthur Fils ou d'autres pépites qui montent non plus complexe d'infériorité. Ils arrivent sur le court pour découper leur adversaire. On a le jeune Moïse Kouame qui a eu sa wildcard. Ça y est, ça a été, les wildcards ont été officiellement donnés. Ils sont là vraiment pour achever leur adversaire, peu importe le classement. On l'a vu sur les derniers tournois, le tennis français qui retrouve un peu cette couleur de la hargne et surtout cette identité de jeu. L'objectif à Rome, pour eux, c'est de grappiller aussi quelques derniers points pour être potentiellement une tête de série à Roland, parce que bah, personne n'a envie de tomber sur un cador dès le premier tour à Paris. Et puis enfin, un mot sur le circuit féminin qui est absolument passionnant. Iga Świątek qui continue son règne sur terre battue. Elle glisse en personne, elle dicte le rythme avec cette autorité assez incroyable, mais elle n'est plus seule. La puissance d'Aryna Sabalenka, l'intelligence de jeu de Coco Gauff qui crée un triumvirat au sommet de la WTA qui rend chaque finale incertaine. À Rome, les conditions de jeu sont souvent changeantes, la terre peut devenir très lourde en cas de pluie. C'est là que le mental prend le dessus sur la technique. Aryna Sabalenka qui a malheureusement perdu aussi à Rome. On attend quand même la tenante du titre à Roland. On est vraiment à l'aube de cette compétition Roland-Garros qui s'annonce comme l'une des plus ouvertes de l'histoire moderne, entre la fin d'une époque pour les légendes et l'avènement définitif d'une nouvelle garde affamée. Le tennis mondial n'a jamais été aussi captivant. Préparez vos chapeaux de paille, votre crème solaire, puisque la quinzaine qui arrive va vous laisser passer par toutes les émotions. Le sport, le vrai, celui qui s'écrit dans la poussière d'ocre, est de retour à son plus haut niveau. On va suivre ça de très très près. Et on change maintenant totalement de décor pour se plonger dans la fureur des moteurs et le choc des titans de l'Ovalie. On commence par l'événement qui fait trembler la France ce week-end, le Grand Prix de France de MotoGP au Mans. Si vous étiez sur le circuit Bugatti, vous avez dû vivre un moment historique. George Martin a littéralement écrasé la concurrence pour s'offrir une victoire nette et sans bavure. Derrière lui, Marco Bezzecchi et la surprise japonaise Ai Ogura complète le podium. C'est un coup dur pour Francesco Bagnaia qui, encore une fois, part à la faute et concède de gros points en championnat. Mais ce qu'on retiendra surtout, c'est la ferveur de nos Français Fabio Quartararo qui termine avec une encourageante sixième place, montrant que sa machine retrouve enfin sa couleur. Tandis que Johan Zarco, qui s'est battu comme un beau diable pour accrocher la 11e position, Le Mans a une nouvelle fois prouvé qu'il était le cœur battant de la moto mondiale, avec une ambiance électrique qui ne s'essouffle jamais. Et on reste dans la vitesse, mais on passe sur 4 roues, avec un petit détour du côté de l'IndyCar, où le Grand Prix d'Indianapolis vient de sacrer Christian Lundgaard, le Danois qui a mis fin à une longue disette pour offrir à McLaren une victoire magistrale pendant que notre Romain Grosjean jouait de la malchance dans un accrochage. Mais la grosse info qui agite les paddocks, c'est surtout la montée en puissance d'Oscar Piastri en Formule 1, son manager Marc Weber qui ne cesse de marteler que McLaren a enfin la voiture pour jouer le titre mondial cette saison. On sent que la hiérarchie tremble et que Red Bull n'a plus cette marge de sécurité qui rendait les courses si prévisibles. Passons maintenant au rugby, puisque le top 14 est entré dans une phase de folie pure. On jouait la 23e journée et le grand coup d'éclat est signé La Rochelle. Les Maritimes qui sont allés s'imposer sur la pelouse synthétique du Racing 92, 26-24. Une première historique pour eux à la Paris Défense Arena. Cette victoire qui relance totalement la course aux phases finales. La Rochelle qui remonte à la 8e place et n'est plus qu'à un souffle du top 6. Pendant ce temps, le Stade Toulousain a fait une démonstration de force quand même face à Toulon, 51-27. Les Rouges et Noirs qui sont intraitables, ils conservent la tête du championnat avec un bonus offensif à 3 journées de la fin de la bataille pour le maintien et pour les barrages, et d'une intensité assez rare. Chaque ruck, chaque pénalty peut faire basculer le destin d'un club vers l'élite ou la Pro D2. Côté cyclisme, c'est l'heure du premier bilan sur le Giro d'Italia. Le peloton qui profite de sa première journée de repos après un départ tonitruant en Bulgarie, la 109e édition du Tour d'Italie, nous a déjà offert des frissons, notamment avec le jeune français Paul Magnier qui a remporté la 3e étape du sprint. C'est la sensation de ce début de tour. Au classement général, c'est Guillermo Thomas Silva qui porte la précieuse Maglia Rosa, mais les favoris comme Jai Hindley restent en embuscade. Dès demain, d'ailleurs, le peloton retrouve les routes italiennes pour cette 4e étape. On s'attend à ce que les baroudeurs tentent leur chance, mais les sprinteurs comme Jonathan Mila n'ont pas dit leur dernier mot. Le Giro ne fait que commencer et les cols mythiques qui arrivent vont bientôt dessiner le vrai visage de ce classement général. Enfin, un petit mot sur le handball, où là, Liqui Moly Star League nous offre un duel à distance irrespirable. Le Paris Saint-Germain a répondu coup pour coup à la victoire de Nantes, allant s'imposer avec autorité sur le terrain de Scélérat, 34-23. Les Parisiens qui gardent 2 points d'avance en tête du championnat, porté par un Yaha Omar en feu avec ses 8 buts. On se dirige tout droit vers un choc PSG-Nantes qui s'annonce comme une véritable finale de championnat. Le titre qui se jouera sur des détails, sur un arrêt de gardien, une perte de balle inévitable. Donc voilà, que ce soit sur deux roues, avec un ballon, sur un vélo, le sport mondial nous offre quand même un mois de mai absolument exceptionnel. On sent que les athlètes sont à leur pic de forme, que les enjeux nationaux et internationaux se rejoignent. On garde l'œil ouvert sur les prochaines étapes, les prochains essais et les prochains buts, car la saison 2026 est en train d'atteindre son paroxysme. Things fall apart
and time breaks your heart. I wasn't there, but I know she was your girl. You showed her the world, but fell out of love and you both let go. She was crying on my shoulder, all I could do was hold her. Only made us closer until July. Now I know that you love me. You don't need to remind me. I should put it all behind me, shouldn't I? But I see her in the back of my mind. Oh,
tout ce que vous savez sur l'équitation classique. Oubliez le chic des concours complets, le silence respectueux du saut d'obstacle ou cette ambiance quelquefois feutrée du PMU le dimanche matin. Aujourd'hui, je vous emmène très loin d'ici, dans les steppes sauvages d'Asie centrale, sur les terres du Kirghizistan et du Kazakhstan. Là-bas, le cheval n'est pas un simple animal de compagnie ou un partenaire de balade. C'est une extension du corps du guerrier, hein, un héritage direct des ordres de Genghis Khan. Imaginez donc un terrain de terre battue gigantesque, de la taille de deux stades de foot, où la visibilité est presque nulle à cause d'un nuage de poussière étouffant. Au milieu de ce chaos, deux équipes de cavaliers engagés qui se foncent dessus, et au centre de la mêlée, l'objet de toutes les convoitises, une carcasse de chèvre de 35 kg, décapitée et éviscéré. Et oui, rien que ça. Donc bienvenue au coq bourru. C'est le sport national, une discipline ancestrale qui fait passer notre rugby moderne pour une simple partie de marais, le polo pour un thé dansant entre aristocrates. Le concept, donc, c'est d'une brutalité limpide, presque même primaire. Il faut ramasser cette carcasse au sol sans jamais descendre de sa selle, car poser le pied à terre au milieu de 50 sabots en furie équivaut à un arrêt de mort, tout simplement. Et puis aller donc la propulser dans le but adverse, voilà, ce but qu'on appelle donc le Kazandjuk. C'est pas un filet souple, mais une immense vasque en béton de 2 mètres de large. Mais ne vous y trompez pas, le plus dur n'est pas de marquer, c'est d'arriver jusqu'au but, puisque ici, le contact n'est pas seulement autorisé, il est l'essence même du jeu. On parle de chevaux de 500 kg qui se percutent de plein fouet, poitrine contre poitrine, d'athlètes qui se battent au corps à corps, s'agrippant par les bras, en équilibre total sur leur étrier. Le coq bourru, ça signifie littéralement le loup gris. À l'origine, ce n'était pas un divertissement, c'était un entraînement militaire vital. les nomades qui apprenaient à protéger leurs troupeaux en pourchassant les loups qui rôdaient, en les saisissant à pleine vitesse pour les écarter du bétail. Aujourd'hui, en 2026, cette tradition de survie est devenue un spectacle total, avec même des ligues professionnelles, des sponsors, des stades de plus de 40 000 personnes en délire qui hurlent sous un soleil brûlant, même en n'y voyant quasiment rien à la compétition. Ce qui est véritablement fascinant, et je pèse mes mots, c'est que les véritables stars de la séquence sont les chevaux eux-mêmes. Ce ne sont pas des bêtes ordinaires qu'on croise dans notre centre équestre. Ces chevaux sont dressés pendant des années pour ne pas craindre l'impact, pour mordre les montures adverses sur commande, pour bloquer les trajectoires avec une intelligence tactique qui dépasse l'entendement. C'est une chorégraphie de muscles, de sang et de sueur. Pour le cavalier, l'effort physique est inimaginable. C'est un travail de gainage monstrueux. Essayez de pencher tout votre buste dans le vide, la tête à quelques centimètres des sabots, pour agripper un poids mort de 30 ou 40 kilos à pleine vitesse pendant que trois adversaires tentent de vous arracher le bras ou de vous éjecter de votre selle. Les mains des joueurs, qui sont souvent couverts de cicatrices, leur visage marqué par la poussière et l'effort. On ne joue pas au coq bourru comme on joue au tennis. On y survit. On y gagne ses galons d'hommes. Alors évidemment, vu d'Occident, certains diront que c'est barbare. On parlera de bien-être animal, on dira que cette carcasse de chèvre appartient à un autre âge. Mais il faut comprendre que pour les peuples des steppes, c'est un rituel sacré qui lie l'homme à la bête et à la terre. La chèvre n'est pas tuée pour rien. La tradition veut que la viande, attendrie par les chocs violents et les compressions du match, soit systématiquement cuisinée pour le grand banquet qui réunit les deux villages après la rencontre. C'est un cycle de vie complet pour essayer de s'ouvrir à l'international et peut-être un jour d'intégrer des compétitions mondiales plus larges. Franchement, il y a des fédérations qui ont commencé à introduire des carcasses synthétiques en silicone. Je pense que c'est une bonne idée parce que l'image de la chèvre morte, c'est pas pour maintenant et je pense pour jamais. Mais si vous demandez à un vieux puriste dans les montagnes du Tian Shan ce qu'il en pense, il vous rira au nez avec mépris. Pour eux, sans le poids changeant, sous la texture réelle du cuir et sans le lien avec le sacrifice, l'âme du guerrier s'efface et le sport perd cette force un peu mystique. Si vous voulez des images qui vont réellement vous décoller la rétine et vous faire oublier votre confort du quotidien, je vous invite à chercher les vidéos des World Nomad Games. C'est sauvage, saturé de poussière d'or et ça nous rappelle une violence en quelque sorte magnifique, peut-être, on peut dire ça comme ça, qu'au-delà du sport... un peu business, des droits TV, des pelouses qui sont tondues au millimètre, il existe encore des mondes où l'adrénaline pure se mesure au fracas des sabots contre la terre ferme et à la puissance aussi d'un cri dans l'immensité du désert. C'était donc le coq bourru, le rugby des steppes, le sport des hommes-loups. On se retrouve juste après une courte pause musicale pour revenir avec l'agenda des prochains sports, des prochaines rencontres à ne pas manquer qui vous permettra de passer votre week-end en plaisir.
We'll be right back.
Et le calendrier sportif s'emballe dès la semaine prochaine avec une succession de rendez-vous majeurs qui vont tenir les amateurs en haleine. Pour le tennis, bien évidemment, la terre battue de la Porte d'Auteuil qui reprend ses droits avec Roland-Garros qui se déroule du 18 mai au 7 juin. C'est l'occasion de voir si les maîtres de la surface sauront résister à la nouvelle génération sous le ciel de Paris. Parallèlement, les sports mécaniques qui montent en régime avec notamment le 500 miles d'Indianapolis le 24 mai, suivi du prestigieux Grand Prix de Formule 1 de Monaco le 7 juin, où la précision chirurgicale des pilotes sera mise à rude épreuve dans les rues de la Principauté. Course qui, on le sait, s'avère très technique, très difficile, surtout dans certains virages. Le football européen, lui, qui connaîtra son apogée le 30 mai avec la finale de la Ligue des Champions, juste avant que la planète foot ne bascule dans une autre dimension le 11 juin, qui marquera en effet le coup d'envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada. Le match d'ouverture verra le Mexique affronter l'Afrique du Sud au stade Azteca, lançant un tournoi historique de 48 équipes qui durera jusqu'en juillet. Les Bleus feront d'ailleurs leur entrée en lice le 16 juin contre le Sénégal. Le mois de juin qui sera également marqué par d'autres disciplines spectaculaires. L'Accor Arena de Paris qui accueillera un tournoi de sumo assez inédit, assez original, les 13 et 14 juin. Une première en France depuis 30 ans, donc c'est pas rien. Pour les fans de rugby, le dénouement du top 14 approchera à grands pas avec les demi-finales le 19 juin. L'athlétisme mondial se retrouvera au stade Charletti le 26 juin pour le meeting de Paris, étape cruciale dans la Diamond League. Pour conclure ce mois de juin intense, le départ du Tour de France qui sera donné le 4 juillet depuis Barcelone pour une édition qui s'annonce déjà épique à travers les massifs européens. We can remember swimming in December, heading for the city lights. 975. We sharing each other, nearer than father. Scent of the lemon drips from your Et voilà, c'est déjà la fin de Sport 360. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce tour complet de l'actualité sportive, des grands rendez-vous à venir aux disciplines moins connues mais tout aussi passionnantes. Restez connectés, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro, toujours au cœur de l'action, des résultats qui font battre le cœur des fans. Je rappelle, le sport est diffusé le lundi, jeudi et dimanche de 7h à 8h. Retrouvez-nous aussi en podcast sur Eiffel Radio.